Ouin, c'est le retour de toute la culture que j'aime. Vous êtes bien sûr IDFM Radio. Au programme ce soir de l'émission, nous allons parler d'un livre, La petite pianiste d'Erevan. Nous allons découvrir la vie d'une famille dans les années 90 sous l'effondrement du régime soviétique. Il s'agit d'une famille qui habite Erevan avec notamment une toute jeune fille de 10 ans, Vereshka, qui voit son plaisir dans le piano. Et ensuite, nous allons parler céramique avec des travaux d'élèves et d'enseignants. Alors, c'est un métier d'art très, très spécifique, la grande tradition de la poterie, de la céramique. C'est au lycée L'Initiative, rue Bourret, dans le 19e. C'est une exposition qui s'appelle Croquet Sèvres. Nous allons en apprendre beaucoup sur tous les techniciens, les agents de la manufacture de Sèvres, la manière dont ils travaillent, dont ils font leurs motifs, dont ils ont... La manière également dont ils vont nous montrer des tas de couleurs différentes de manière assez contemporaine. Ça, c'est donc le vernissage est mercredi 20 mai au lycée L'Initiative rue Bourret dans le 19e. On vous retrouve tout de suite.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Je reçois Marina Yaloyan. Bonsoir Marina.
Bonsoir chère
Agnès. Nous allons parler de votre premier roman qui vient de paraître chez Albin Michel, La petite pianiste d'Erevan. Une saga familiale se passant à Erevan dans les années 80 et dont les membres de la famille voient la chute de l'Union soviétique. On assiste à l'effondrement, la restriction. La fille, Vereshka, voit cela avec ses yeux d'une enfant de 10 ans. C'est un roman lumineux qui nous plonge dans l'ambiance de l'Union soviétique dans les années 90, entre nostalgie, envie de vivre. Vereshka va nous livrer ses souvenirs, telle une partition de musique. Marina Yaloyan, vous êtes journaliste, auteur. Vous êtes également directrice des affaires internationales au journal du Parlement et aux Nouvelles Diplomatiques. Vous avez collaboré à de nombreuses publications. Voilà, vous êtes sur la scène diplomatique et littéraire. Vous écrivez depuis que vous êtes toute jeune. Comment est arrivée l'aventure de ce premier roman ?
Bah écoutez, vous savez, il y a des histoires qu'on a besoin de raconter et puis, comme vous avez bien dit, moi j'écris depuis l'âge de 10 ans, sauf que j'écrivais à l'époque en russe. Ensuite, ma famille est partie aux États-Unis, donc je recommençais à écrire en anglais et maintenant j'écris en français. Et donc c'est mon premier roman en effet j'avais besoin de revenir à cette époque des années 90 que j'ai connue intimement. C'est une époque que j'ai vécue. Mais je voulais aller bien au-delà des souvenirs et au-delà d'un mémoire de soi pour raconter justement ce qui se passait avec des millions de familles qui traversaient toute la même chose à l'époque de l'effondrement de l'URSS dans les années 90.
Vous parlez de l'effondrement justement de l'URSS dans les années 90. Vous avez vécu vous-même à Erevan ?
Oui, j'étais née là-bas, donc c'est une époque, encore une fois, que je connais intimement, mais il s'agit vraiment d'un roman, c'est-à-dire que les scènes, les personnages sont reconstruites pour, en fait, aller bien au-delà, pour avoir cette portée qui est bien plus universelle et plus ample, et donc parler des vies de toutes ces personnes en fait qui étaient propulsées vers l'exil, vers vous savez pendant cette période qui était très compliquée où en effet tout s'effondrait, le système social, politique, il n'y avait plus d'argent, plus de travail pour juste imaginer l'ampleur, 15 républiques ont vécu la même chose pendant la même période.
Et comment vous est venue l'histoire de cette toute jeune pianiste? Verochka.
Moi, j'aime beaucoup Verochka. C'est un prénom tout mignon, en fait, qui signifie, en russe, ça veut dire la foi. Et donc, je trouve que cette petite fille, en effet, elle porte en elle cette foi, cette espérance que, vous savez, elle est face à quelque chose qu'elle ne comprend pas tout à fait, et elle voit le monde de ses parents s'effondrer. Et je pense que le regard d'enfant est intéressant parce que elle raconte les choses souvent. Elle est déjà très elle comprend très bien les choses, souvent mieux que les adultes, et puis elle choisit de raconter cette atmosphère, et le lecteur, lui, il comprend, même si Verochka, souvent, elle raconte les choses qu'elle... la vie des adultes, vous savez, c'est des fois compliqué de comprendre les motivations, donc elle n'entre pas là-dedans, mais elle décrit, et le lecteur, lui, il comprend, et donc ça crée ces décalages que je trouve assez intéressants dans le roman. Donc le regard d'enfant, je pense, c'était essentiel.
Oui, vous parlez justement de son regard d'enfant. On va se rendre compte qu'elle est elle-même mêlée à un moment du roman à ces mouvements de foule et à ces à toutes ces manifestations. Alors la question qu'on se pose, comment elle est cette petite Verochka? Est-ce qu'elle est forte ou est-ce qu'elle est plutôt fragile?
Je pense que c'est les deux. Vous savez, on peut être forte dans sa fragilité, je pense c'est exactement ce qu'elle est. Elle est aussi un petit peu rebelle, je pense qu'on le voit en effet avec la scène de manifestation que vous évoquez, mais c'est aussi un passage, je dirais, un tout petit peu métaphysique, c'est-à-dire à partir du moment où elle ressurgit de ce passage, elle est devenue adulte. Donc c'est quelque chose, vous savez, tout est assez symbolique dans le roman, il y a des scènes assez symboliques, et je pense que là, le fait de se mêler en fait à ce mouvement politique qu'elle observe au début depuis sa fenêtre, ça permet à avoir cette conscience nouvelle dont elle se rend compte, mais ses parents, je pense, ils se rendent pas compte de ça.
Oui, alors vous parliez de métaphysique. Il y a aussi la place de la musique, évidemment primordiale dans le livre, puisque sa mère est elle-même une musicienne, en Union soviétique, hein, dans les années 80. Elle, Verochka, est également pianiste. Qu'est-ce que représente la musique finalement? Est-ce que c'est de la poésie dans le roman? Est-ce que c'est une passion?
Je pense que c'est une voie de survie. Vous savez, parce que quand tout s'effondre, le politique, le social, la musique, c'est quelque chose qui reste. Et c'est un langage universel, en fait, au fond. Mais c'est une espace intéressante parce que la musique, c'est à la fois le lien de transmission, aussi le lieu de trahison, qu'on va découvrir dans le roman, et aussi la voie de survie. Donc, il y a toutes ces choses à la fois qu'il représente.
C'est-à-dire, il y a également des descriptions dans le livre, des concerts qui sont magnifiques. Alors on va pas tout révéler, mais que ce soit la mère lorsqu'elle joue, que ce soit la petite fille, et je voudrais vous lire un passage justement. Alors voilà un passage sur Verochka qui va donner un concert. Tel l'acrobate qui a posé son pied sur le rebord du toit. Dans le silence assourdissant, je pose mes mains sur le piano et je plaque avec force le premier accord de la pathétique. Une pause, comme un battement de cœur qui s'éteint. Quelques longues secondes. Encore une pause, comme un arc tendu. Ils me regardent tous, le souffle suspendu avec Belef au premier rang. Comme s'il attendait que mes chaussures glissent et que je tombe, mais je tiens bon. Le silence, encore un. Et puis, les salves de feu arrivent d'un coup. Elles embrassent la salle terne. La foule est là, tout près. Je vois son ombre monstrueuse grossir sur les murs. Le tonnerre gronder, féroce. Ses éclairs de colère raviver les stucs dorés au plafond. J'entends de nouveau les cris acharnés. « Abat le gouvernement !» Je retiens mon souffle et comme à l'époque, je plonge dedans. Alors Marina, justement, il y a dans votre roman du fantastique, c'est-à-dire que là, Verochka est stressée bien évidemment, mais elle est totalement dans sa musique. Elle est toute petite, elle a 10 ans, mais quand même des images lui reviennent en tête. Des images de la foule, des images des manifestations, des images de la révolution.
Oui, la musique devient en fait là un espace politique. Et vous savez, il y a, je pense, le thème essentiel dans le roman qui est le thème de la liberté. Et là, la musique, en fait, elle exprime cette liberté universelle. Et d'ailleurs, Beethoven, c'est pas pour rien qu'on le choisit, parce que, comme on le sait, Beethoven était un grand révolutionnaire déjà, et donc il y a chez lui cette liberté incroyable. Donc oui, absolument, je pense qu'ici, la musique devient double, et elle mène encore une fois vers ses souvenirs, et donc elle n'a plus peur, parce que elle plonge dans cette atmosphère, qu'elle avait connue, qu'elle avait inspirée, et donc
c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que vous avez ce talent dans vos romans de nous plonger déjà dans une saga familiale sur fond d'histoire, hein, bien évidemment, mais également il y a des descriptions très poétiques et il y a du fantastique. C'est-à-dire que de temps en temps, ça bascule dans un univers qui nous échappe. Je voudrais lire un autre passage. Et puis les salves de feu arrivent. D'un coup, elles embrasent la salterne. La foule est là, tout près. Je vois son ombre monstrueuse grossir sur les murs. Le tonnerre gronder. J'entends de nouveau les cris acharnés « Abat le gouvernement ». Je retiens mon souffle. Et comme à l'époque, je plonge dedans. Exaltée, je nage dans ce feu liquide. Je m'y abandonne. Complètement, les notes deviennent comme des êtres vivants agités. Elles courent le long du clavier, elles se heurtent, elles se bousculent, elles tombent, elles hurlent de désespoir et de fatigue. On va faire une pause musicale, justement.
Avec plaisir.
Marina, et on va écouter la sonate. Hein, on écoute la sonate pathétique de Beethoven, qui est très présente dans le roman. On écoute.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre la sonate pathétique de Beethoven. Nous sommes toujours avec Marina Yaloyan, auteure. Rebonsoir Marina.
Rebonsoir Agnès.
Pour parler de la petite pianiste d'Erevan, en effet, la musique est très importante dans le roman. Comment avez-vous alors question sur vos personnages, tous vos personnages, que ce soit Babalia, les deux grand-mères, Babalia, Maria.
Babulia et grand-mère Maria, oui, c'est les deux, Nadia, très différentes.
Nadia, la mère de Verochka, le père. Comment avez-vous construit tous ces personnages?
Écoutez, vous savez, j'ai écrit d'une façon intuitive, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui se fait artificiellement. Je pense que en effet, j'ai un vrai sens des personnages, c'est-à-dire que pour moi, les personnages doivent être vivants et ils doivent, à un moment donné, vous savez, c'est là où on se dit on a réussi quelque chose, c'est qu'un personnage prend sa, il a son propre trajectoire, sa propre vie, en fait. Et quelque part, on se dit même, on le suit plus qu'autre chose. Et je pense qu'à un moment dans le roman, je suis arrivée à ce point-là où je suivais les personnages et eux, ils me dictaient un peu leur histoire et ce qu'ils voulaient raconter, ce qu'ils voulaient dire et dans quelle situation. Ils me menaient vers les situations. Ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé en avance, c'est juste l'équilibre. Vous savez, quand on construit, encore une fois, je suis musicienne, j'ai un oreille musicale, donc quand on construit, par exemple, on écrit un morceau de musique, je pense que c'est la même chose, on écoute les harmonies. Et moi, c'est de la même façon, j'ai écouté mes personnages et ils m'ont mené vers autre chose.
Voilà. C'est vrai que ça nous propulse tout de suite dans le monde de l'Union soviétique avec la grande musique et le fait que la mère Nadia et sa fille soient toutes les deux musiciennes, concertistes de talent. En plus, il y a la rencontre avec le fameux chef d'orchestre. Tout ça nous plonge complètement, j'allais dire, dans l'univers russe. Est-ce qu'on peut dire ça?
Absolument, oui, bien sûr. Je trouve que c'est un roman assez inspiré des traditions littéraires russes. Il y a le côté métaphysique, vous avez évoqué tout à l'heure. Il y a le côté symbolique aussi. Et puis, je pense que la mère de Verochka, c'est un personnage lyrique. C'est un personnage idéaliste. Donc, elle essaie de s'extraire de ce monde. Et ce qui la rend d'ailleurs tragique, parce qu'elle essaie de s'extraire, mais elle n'y arrive pas. Et d'ailleurs, tous les personnages dans ce livre sont un petit peu enfermés dans leurs conditions. Et donc, ce thème de liberté que j'évoquais tout à l'heure, je pense, personne n'arrive en fait finalement à l'acquérir à part la petite fille, à part Verochka. Mais ça, c'est évidemment une interprétation de l'auteur et peut-être certains lecteurs vont juger différemment.
Oui, vous parliez justement de symboles. Alors, il y a ce symbole des livres que l'on brûle, des tout billets que l'on brûle à la chute de cet empire soviétique. Ça s'est passé comme ça?
Oui, écoutez, il y avait les situations comme ça, enfin pas dans ma famille, mais je sais que cela existait. Évidemment, les roubles qui ne servaient plus à rien, vous savez, on pouvait les brûler, mais au-delà de je pense, du côté matériel des choses, encore une fois, c'est assez symbolique, parce que quand on brûle les billets, on brûle le système économique, en vérité, et quand on brûle les livres, on brûle la mémoire, on brûle la civilisation. Et évidemment, le deuxième est infiniment plus fort que le premier. Et donc, je voulais, je pense, mettre en parallèle ces deux scènes parce que, d'une façon, il symbolise vraiment quelque chose d'assez fort, oui, par rapport à cette période.
Et Verochka, la petite fille, eh bien, assiste à tout ça, comme on le disait tout à l'heure, avec ses yeux d'enfant. Je relis un passage. Tout objet se trouvant dans notre appartement n'a plus qu'une seule utilité. Il doit brûler. Mais il n'y a jamais assez d'objets. D'abord, ce sont des vieilles recettes de cuisine qui partent en fumée. Puis les journaux, les magazines, les annuaires, les cahiers. Brûlent aussi les forêts qui entourent la ville, les meubles, les portes, les poupées en bois, le parquet, les sabots et les arbres de mon enfance. Une fois que tout a été vidé, vient le tour des livres. L'histoire du Parti communiste de l'Union soviétique brûle vite. Bon, ça, bien sûr, c'est des symboles, c'est des métaphores. Les poupées en bois n'ont pas été brûlées, mais pour elle, tout disparaît.
Tout disparaît. En fait, c'est son enfance qui disparaît dans ce feu, qui est à la fois c'est un feu qui sauve du froid, de la nuit, etc. Mais il aussi dévore ce qui constituait l'enfance, ce qui constituait la civilisation.
Alors, je voudrais souligner l'importance, j'en parlais tout à l'heure, de la poésie. Vous faites une très belle description, notamment du parc. Hein. On parle de nostalgie, on parle de souvenirs, oui, de Verochka, du parc à Erevan, où elle allait jouer en bas, avec une description des arbres, magnifique, très poétique.
Oui, le parc de l'enfance, oui, c'est très important, bien sûr.
C'est ça. Et bien évidemment, le poème de Pouchkine.
Oui. Alors ça, c'est l'imaginaire des enfants de l'époque qui étaient toujours nourris par Pouchkine. On l'étudiait à l'école. Je veux dire, c'est quelque chose qui faisait partie de l'imaginaire des enfants de l'époque. Et moi, je me suis dit, vous savez, je pense que les lecteurs français, peut-être pas tous en tout cas, ne connaissent pas Pouchkine aussi bien. Et donc, c'était intéressant d'intégrer ce poème parce que quand elle est dans cette forêt un peu onirique, ça lui vient à l'esprit parce que c'est Babulia qui lui a appris cette histoire. Et donc, elle a envie de réciter ce poème que Babulia l'a fait apprendre par cœur. Donc oui, je pense que ça ramène tant de souvenirs, tant de moments chaleureux aussi pour cette petite fille.
Oui, le roman se lit très bien. C'est un roman assez court, hein, de 200 pages, hein, 220 pages. Il est conçu un peu, j'ai envie de dire, comme, alors pas comme une partition de musique, mais comme des souvenirs, comme un journal un peu. Vous voyez, il y a alors la petite pianiste, ensuite c'est l'hôpital, l'arrivée, le concert. C'est comme ça des images, des souvenirs, avec bien sûr une trame, une histoire, l'histoire de Verochka qui au sein de cette famille. On va écouter, on va refaire une pause, on écoute de Rachmaninov le concerto numéro 2. Vu que vous en parlez dans le livre, dans le chapitre, le concert.
Oui, il est décrit avec cet imaginaire d'enfance. Et Verochka, elle assiste à ce concert où elle voit sa mère jouer pour la première fois d'ailleurs, parce que sa mère a un peu sacrifié sa carrière de concertiste pour être mère. Et donc, oui, c'est un moment assez fort dans le livre et je pense que c'est un bon morceau.
Oui. On écoute un petit extrait de Rachmaninov.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Nous venons d'entendre le concerto numéro 2 de Rachmaninov et nous parlons, nous continuons l'interview avec Marina Yaloyan pour la petite pianiste d'Erevan. Voilà. Alors, on parlait justement de poésie, de fantaisie. À quel moment est-ce que vous incorporez justement de la, on va pas dire de la spiritualité ni de la, enfin vous parlez de métaphysique, moi je parle d'univers fantastique.
Ah. Ouais. Vous savez, c'est une interprétation de chaque lecteur, en effet, c'est la liberté de d'interpréter.
À quel moment est-ce que vous décidez de mettre une page d'un univers fantastique sur des sorcières russes
Mais vous savez, c'est l'imaginaire enfantin. Je veux dire, pour un enfant, les objets sont vivants, l'imagination est vivante. Et en fait, ce qui fait Verochka aussi résister à ce qui l'entoure, c'est cette imagination-là. Et je pense que c'est merveilleux de, vous savez, de réapprendre à réfléchir comme un enfant. Picasso disait que ça m'a pris toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. Et moi, je dirais que c'est merveilleux de en effet, réapprendre à imaginer, à avoir cette imagination riche. Moi, je dirais, en effet, il y a, bien sûr, vous pouvez dire fantastique, le côté fantastique, le côté imaginaire, le côté... On s'évade en fait à chaque fois que la réalité devient trop dure, trop insupportable. La petite fille et s'évade dans son imagination où tout est magique. Et s'évade dans ses souvenirs avec sa grand-mère. Et s'évade dans son parc. Et s'évade dans son dans sa musique. Et donc je pense oui absolument
c'est au moment où ça devient la réalité devient trop ardue. Oui. Je voudrais lire ce passage justement qui tombe très bien. Autour de moi, tout prenait vie. Je devinais partout les ombres de créatures fantastiques, des sirènes, une Baba Yaga dans son mortier volant et même Koshtei l'immortel penché sur son trésor. Soudain, le cocher s'est arrêté net. Halte. Tiens-toi bien, nous faisons demi-tour. Pourquoi ? J'ai vu des traces de loups. Alors, à quel moment là intervient justement ce passage ? Est-ce que c'est quand elle visite le parc ?
Avant. Avant ça, et elle est dans un bus avec sa maman. Il y a énormément de monde parce qu'il y a presque plus de bus à l'époque. Rien ne fonctionnait vraiment, les transports publics aussi. Et donc il y a énormément de monde. Tout le monde s'écrase à l'intérieur. Il y a la chaleur épouvantable. Et elle s'évade dans ce passage où elle prend ce traîneau pour aller dans les montagnes, dans cette forêt magique.
C'est ça, et donc là, tout d'un coup, lui viennent à l'esprit des images
des contes de fées, en vérité, des contes de fées russes, ouais, des contes de fées de son enfance, et se rappelle de vous savez, un enfant qui entre dans la forêt, en effet, tout est vivant, tout prend, sont des formes qu'elle voit, ce sont des créatures, et donc elle s'évade vers ça, parce que c'est plus intéressant, plus riche, plus que la réalité.
Oui, alors il y a l'importance également des grands-mères. Les deux grands-mères. Hein. Oui. Il y a celle qui est plutôt, on va dire, plus ouverte, et puis celle qui est très nostalgique de l'Union soviétique finalement. Maria.
Maria, oui, tout à fait. Oui, il y a deux héritages différents. Je pense que la grand-mère, c'est une figure très symbolique, très importante dans la littérature, enfin, dans la vie des enfants de l'époque. Babouchka, c'était quelque chose qui était essentiel. Et Baboula, elle incarne le monde, vous savez, ce rêve de la Russie impériale, parce que elle raconte ses histoires à Verochka, elle la désigne un peu comme héritière de ce monde. Et grand-mère Maria, alors ça c'est l'inverse, elle est en effet très nostalgique, elle est presque le symbole de ce communisme qui tombe, qui n'existe plus. Elle est très nostalgique de cette période et on la comprend aussi parce que elle a vécu dans cet univers où elle y croyait vraiment. Et à la fin de sa vie, elle va voir que tout s'effondre.
Oui. Voilà. Merci beaucoup, Marina Yaloyan. Je rappelle le titre de votre premier roman qui vient de paraître chez Albin Michel, hein, La petite pianiste d'Erevan, dans lequel, eh bien, vous nous parlez de cette famille qui va vivre l'effondrement de l'Union soviétique. Merci, Marina. Peut-être des signatures de prévu?
Merci, chère Agnès. Oui, absolument. Alors, je fais une conférence le 29 mai au Conservatoire de Rachmaninov. Et ensuite, le 3 juin, j'ai Albin Michel qui organise une très, très belle signature dans la librairie d'Albin Michel. Et donc, je vous invite à y passer. Tout à fait. Et je serai ravie de signer le livre pour vous.
De toute façon, nos auditeurs peuvent se renseigner sur votre site, hein, Marina Yaloyan, la petite pianiste d'Erevan. Voilà, pour ces deux rendez-vous du 29 mai et du
3 juin.
3 juin chez Albin Michel.
Librairie d'Albin Michel.
Très
absolument.
Bien. Oh, allez, on écoute Sylvie Vartan. Elle est pas très loin de l'Arménie finalement, Sylvie Vartan. Enfin, c'est la Bulgarie, hein.
Ah oui, oui.
Ouais, allez, bye bye,
avec
Leroy
plaisir.
Brown.
Oui. Dans la ville interdite, un soir que j'étais perdue, c'est la photo au hasard si je l'ai rencontré. Ce garçon nommé Leroy Brown, il se disait artiste. Il était beau, il était grand, avec une façon de faire les choses comme ça, que je suis tombée dans ses bras. Bye bye Leroy Brown, pour les femmes tu es le number one. Tu m'as prise à ton piège et je ne peux vivre sans toi. J'étais tendre et naïve et je croyais ce qu'il disait. Il avait sa manière de dire bébé viens là, que je ne pouvais plus répondre de moi. Oh c'était fantastique, encore mieux qu'au cinéma. L'argent, l'amour et puis il y avait le risque, et c'était toujours Leroy et moi. Bye, bye, Leroy Hall Brown, oui pour les femmes tu es le number one. Tu m'as prise à ton piège et je ne peux vivre sans toi. Oh c'était la vie facile, voiture, chauffeur et puis tout ça. Partout où l'on allait, lorsque les gens parlaient, c'était encore de Leroy et moi. Mais la fin de l'histoire, c'est que je n'aime pas partager et qu'il n'a jamais pu résister à une femme. C'est là que la corde a cassé. Alors bye, bye, Leroy Brown. Oui, pour les femmes, tu es le number one. Tu m'as prise à ton piège et maintenant c'en est assez. Alors j'ai dit merci l'artiste, ton numéro est terminé. Je travaille en solo, je n'ai plus besoin de toi. Il n'y a plus de Leroy et moi. Allez, bye, bye, Leroy Brown. Oui, pour les femmes, tu es le number one. Mais tu n'as pas su me garder et aujourd'hui, moi, je m'en vais. Allez, bye, bye, Leroy Brown. Oui, pour les femmes, tu es le number one. Tu pourras toutes les aimer, car aujourd'hui, moi, je m'en vais. Oh oui, tu pourras toutes les aimer, car aujourd'hui, moi, je m'en vais.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Bonsoir, vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui métier d'art. Nous allons parler de céramique avec deux enseignants, Benoît Morisseau, bonsoir.
Bonsoir.
Christelle Barberena, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc tous les deux enseignants en céramique, spécialité de la grande tradition au-delà de la céramique. Vous allez nous en parler, vous allez nous expliquer tout ça. Au lycée, donc l'initiative dans le 19e, avec des spécialités, hein, je viens de le dire, dans les métiers d'art, des CAP, hein, vous allez nous expliquer toutes les formations. Alors, je tenais, moi, à parler de ce sujet. Voilà, en ces temps, on va dire, mouvementés, dédiés au numérique, période où la création est si importante. Je voulais souligner, donc, l'importance de ces formations. Pour nos jeunes, bien évidemment, hein, pour tout ce que eux peuvent apprendre, voilà. Et formidable métier, il y a des tas de métiers autour de la céramique, vous allez nous en parler. Alors, il y a plusieurs écoles, justement, dont la fameuse école de la manufacture de Sèvres, et votre lycée, l'initiative très réputée en matière de céramique. Vous menez tous les deux des projets extrêmement créatifs avec vos élèves, donc de BMA, de CAP. Votre prochain projet est une exposition de pièces de céramique, de travaux, de croquis, qui ouvre mercredi 20 mai, là, ce mercredi, au lycée L'Initiative, rue Bourret, dans le 19e. Vous nous donnerez après les horaires, l'adresse, comment on peut y aller. L'exposition va durer ensuite au mois de mai et un peu juin. Donc c'est l'occasion de découvrir la fine fleur de nos spécialistes en céramique, de nos jeunes spécialistes, et de découvrir des techniques contemporaines, des motifs novateurs. Alors Benoît, cette exposition croquée Sèvres met également les pieds dans le plat, puisque cette exposition aura deux parties. Que pourra-t-on y voir ?
Alors nous pourrons voir dans cette exposition un extrait d'un service en hommage à la manufacture de Sèvres qui utilise pour décor des dessins que j'ai eu l'occasion de réaliser pendant un an à la manufacture de Sèvres, atelier par atelier. Et ensuite, sur une invitation de l'équipe de céramique, eh bien, nous avons repris ces motifs pour faire donc un service en hommage à la manufacture de Sèvres, où nous pourrons voir assiette par assiette différents ateliers, différents gestes, et un ensemble qui présente aussi les espaces autour de la cafetière.
Alors justement, vous parlez de cette exposition Croquet Sèvres, mais expliquez-nous un peu, c'est-à-dire que vous avez eu la chance d'aller dans les ateliers et donc de voir les artisans et techniciens en céramique, puisque je rappelle qu'ils sont 120 à la manufacture de Sèvres. Donc vous avez eu la chance d'assister à leurs travaux pendant combien de temps ?
Alors, pendant un an, je suis allé un jour par semaine, donc ça fait au total un peu plus de 40 jours, et le process était de me mettre dans un coin de l'atelier, de me faire oublier, et comme ça j'ai pu voir les artisans partager, échanger, discuter entre eux, puis surtout réaliser des gestes pour fabriquer la pièce de céramique, et petit à petit, chaque séance, on va dire, se dérouler selon à peu près la même organisation, c'est-à-dire qu'au moment de la pause café, eh bien, les gens venaient voir discrètement les dessins, et puis des questions commençaient à se poser, et souvent on se retrouvait à discuter, peut-être un peu longuement, mais c'était extrêmement riche, et ça m'a permis de découvrir que le dessin, au-delà du motif que l'on peut reproduire, c'est aussi un outil d'échange incroyable, et comme la plupart des agents de la manufacture de Sèvres ont une culture du dessin, c'est un vrai langage, un vrai partage, et voilà, l'exposition essaye de rendre compte d'une petite partie de tout ça.
Voilà, donc combien de croquis avez-vous réalisé pendant cette à peu près deux centaines ?
Alors, j'ai un peu plus de 400 planches format A3, à raison de 10 ou 15 croquis par planche. Alors voilà, on doit être à plus de 4000 dessins. Et c'est peut-être la partie la plus difficile pour moi. Ça a été quand la proposition m'a été faite, c'était de faire un choix, de faire du tri au milieu de tout ça, pour arriver à en extraire le juste ce qu'il faut pour présenter une ambiance, un lieu, un moment, un instant.
Oui, et certains de ces croquis vont être reproduits sur des pièces de céramique.
Exactement. Donc on a fait tout un petit travail de recherche avec l'équipe et il a fallu relire les dessins parce que mes dessins en l'état n'étaient pas reproductibles parce qu'il y avait trop de différences de plein et de délié. Et donc il y a eu un temps d'adaptation pour redessiner le dessin, mais sans le redessiner, mais plutôt le relire. Le redécouvrir et je suis très content de cette technique qui m'a permis de revisiter mes dessins et quand on redessine dans ces cas-là on revit un peu tous les moments qu'on a pu vivre à ce moment-là. Ça réactive une forme de mémoire qui va au-delà de ce qu'on a pu analyser sur le moment, mais on se souvient du là il s'est passé ça, là il s'est passé telle chose et voilà, j'espère que cette relecture et ce fait de ressortir comme ça cette mémoire sera passée un peu dans les dessins. Et puis, ce qui était génial au moment de la réalisation, c'était de pouvoir échanger avec les jeunes qui, eux, d'un seul coup, comprenaient ce pourquoi on avait fait cet exercice. Et ça a permis de donner sens, en fait, à cet exercice de report de dessin,
oui.
De chromo.
Parce que là, vous parlez bien sûr de cette stress. On est entre spécialistes. Hein. Mm-hmm. Là, c'est l'enseignant qui parle. Mais ensuite, l'élève, lui, il intervient où ?
Alors, l'élève, lui, il a. Une partie des élèves ont reproduit les dessins en utilisant la technique de la sérigraphie, qui consiste à utiliser une encre vitrifiable qu'on dépose sur le papier en utilisant le dessin. Et ensuite, cette feuille de papier est donc posée dans l'eau. Et au bout de quelques secondes, l'encre vitrifiée se détache. Alors avant, j'ai oublié, elle a été engommée. C'est-à-dire qu'il y a une petite pellicule plastique dessus qui permet de décoller l'encre du papier. Et ensuite, ce chromo est donc déposé dans l'assiette, marouflé.
Pour chasser l'air.
Voilà, pour chasser l'air. Et c'est cette étape-là que tous les élèves de toutes les sections de CAP et BMA ont réalisé, et ce qui permet donc d'avoir participé à un ensemble complet.
Sachant qu'ensuite, ces dessins, vos croquis originaux, vont être reproduits sur des pièces de céramique.
Oui, ça aboutit à ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment un report du dessin sur la pièce de céramique.
Et alors, pendant l'exposition de mercredi, nous pourrons voir ces pièces ?
Alors, toutes les pièces seront exposées. Donc, au total, il y a 15 assiettes, il y a une cafetière et 6 tasses à café avec leur coupelle, et plus donc une sélection de dessins, et aussi toute une explication. Alors, j'ai fait une petite série de dessins qui permet d'expliquer tout le process, toute l'aventure, tout ce qu'on vient de se dire là, puis un peu plus même, pour que les gens qui visitent comprennent à quoi aboutit cette exposition et d'où elle part.
Oui, parce que vous parlez d'aventure, c'est vraiment ça, d'avoir passé une année dans les ateliers de la manufacture de Sèvres et que les élèves puissent participer à ce projet, c'est vraiment une très belle expérience.
Extraordinaire.
Et alors Christelle, peut-être que vous pouvez nous parler du lien justement entre votre lycée, le lycée All Initiative, et la manufacture de Sèvres.
Alors le lien, il est très fort. Il est très fort parce qu'en fait notre section a 70 ans. Et dans ces 70 ans, quelques-uns de nos élèves sont arrivés à la manufacture. Donc en fait c'est presque une deuxième famille. Lorsque Benoît nous a parlé de cette aventure, il nous a dit « Oh là là, j'ai fait des super croquis, j'ai rencontré des super personnes ». Moi, au fur et à mesure qu'il me racontait ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut vraiment qu'on revienne à la source. Et c'est-à-dire que, finalement, la boucle est bouclée. Nos élèves sont partis à la manufacture, enfin, certains d'entre eux. Benoît est allé faire des croquis. Il faut que ces croquis reviennent à l'initiative posée par nos élèves qui, potentiellement, iront peut-être un jour à la manufacture. Enfin, voilà, ce cercle vertueux. Et l'aventure a démarré comme ça. Donc, au-delà de l'aventure artistique, il y a aussi une aventure pédagogique. Nous avons un référentiel et nos élèves se doivent d'apprendre certains gestes. Rien de plus agréable d'apprendre ces gestes tout en donnant naissance à une exposition de qualité et avec vraiment des produits originaux. Donc, comme expliquait Benoît, les élèves ont réalisé les chromos, les ont posés. Donc, c'est une technique, on va dire, qui se veut industrielle. Parce qu'on est en série, on duplique. Et à côté, eh bien, il y a la deuxième partie d'exposition qui est le pied dans le plat, où là, on est sur une vision beaucoup plus artisanale, où ces mêmes élèves qui ont posé les chromos, là, ont réalisé les pièces du début jusqu'à la fin. Ils ne posent pas des pièces sur des pièces qui existent, enfin, les croquis sont des pièces qui existent, mais sur des pièces qu'ils vont fabriquer.
Oui, donc c'est deux parties bien distinctes, on va dire. Une vraiment en lien direct avec la fameuse manufacture de Sèvres, et une plus, comme vous dites, plus personnelle, avec vraiment leurs travaux.
Avec des techniques plus traditionnelles. Là, l'élève, en fait, c'est une exposition qui est collective, où l'ensemble des sections, tout comme pour les chromos, les quatre niveaux ont participé. Là, ce sera la même chose au niveau de la fabrication. Ils ont des thématiques, donc notamment les terminales BMA, eux, ont travaillé autour du rococo, car il y avait une très belle exposition l'année dernière sur Rococo & Co au Musée des Arts Déco. Donc, suite à cette exposition-là, ils ont travaillé sur la thématique du plat, cet objet du quotidien qui peut paraître banal et connu par tous, tout d'un coup, va être décliné sous différentes formes. Donc le rococo ou la galerie de portraits ou alors au travers de décorations sur des bulles. Voilà, donc on va avoir une cinquantaine de pièces réalisées par les élèves.
Et alors là, c'est un travail sur l'année, sur toute l'année.
Sur toute l'année, tout à fait.
Avec des élèves plutôt de CAP, de BMA, de terminale.
Les quatre, ce sont... On travaillait sur la thématique du pied dans le plat, mais avec des colorations différentes.
D'accord. Et chaque élève a réalisé une pièce
ou... Chaque élève a réalisé une pièce avec un cahier des charges. Donc, on sent qu'il y a une notion de collection à chaque fois. Il y a des thématiques, notamment au niveau des portraits. La galerie de portraits, il y a eu un tirage au sort. Ils ont crobardé leurs camarades, les ont interviewés pour savoir ce qu'ils aimaient, pour connaître les couleurs, leurs objets fétiches, qu'ils ont reproduits sur une pièce. Donc, cette pièce, par exemple... ils ont réalisé le moule, donc avec le plat, moule d'estampage. Ensuite, ils ont estampé la pièce, donc ils l'ont moulée. Elle a séché, ils l'ont cuite, ils l'ont émaillée, décorée, recuite. Voilà, donc tout le process traditionnel qui vient compléter celui qui est un peu plus contemporain avec le travail de Benoît.
Et ensuite, elles sont à vendre ou elles sont exposées quelque part après l'exposition?
Alors, elles sont exposées jusqu'à fin juin. Les élèves sont prioritaires, on va dire, sur l'achat des pièces s'ils les veulent, mais voilà, certains passent à autre chose, donc effectivement les pièces peuvent être en vente par la suite.
On fait une petite pause musicale et on vous reprend tout de suite. Bonsoir, vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous continuons notre interview avec Benoît et Christelle. Vous êtes tous les deux enseignants en céramique au lycée, l'initiative du 19e. Christelle, on parle donc de céramique. Alors on y perd un peu la tête parce qu'entre poterie, faïence, porcelaine, grès, vous nous expliquez.
Et ben voilà, toutes les familles, il manque juste la terre cuite qui n'a pas été citée. En fait, la céramique, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est que ça regroupe la porcelaine, la faïence, les terres cuites et le grès. Ça va dépendre de la température de cuisson, ça va dépendre de la composition. Mais la céramique, c'est le terme générique. En fait, quand vous parlez de potier, c'est celui qui tourne des pots. Alors que le céramiste, c'est celui qui va faire l'ensemble des actions. Voilà, mais on est dans la même terminologie en fait.
Oui.
C'est intéressant de savoir, ça c'est clair, et ça plaît beaucoup aux enfants lorsqu'ils viennent à l'école pour faire des stages d'initiation, c'est que notre four monte à la température à l'intérieur du volcan. Voilà. Oui, donc ça c'est quelque chose qu'ils retiennent.
On peut imaginer. Alors le lycée d'initiative dans le 19e à Paris, on en parlait tout à l'heure, est on va dire pas un collaborateur, mais enfin un partenaire hein, de la grande manufacture de Sèvres. Vous travaillez en lien étroit. Un certain nombre de vos élèves vont travailler par la suite à la manufacture. Quelles sont les formations dispensées par votre lycée, les débouchés? Je sais que vous faites un BMA en céramique, qui est très unique hein, finalement. Ça peut être un des seuls en France?
Alors non, pas le seul en France. Le CAP à Paris, c'est le seul. Donc nous avons un CAP décoration céramique. Nous allons ouvrir en septembre un CAP de tournage, céramique aussi. Là, le recrutement pour le CAP, c'est fin de troisième, seconde. Si les élèves désirent le faire en un an, c'est souvent des bacheliers ou des post-bac. Voilà. Le BMA, c'est dans la suite du CAP. C'est en 2 ans. Là, vous allez pratiquer autant le tournage que le modelage, le moulage. Voilà, c'est beaucoup plus large. Alors que le CAP décoration, par définition, on est plus dans la posture d'un exécutant. On se doit, comme en musique, faire les gammes, apprendre le geste parfait. Mais à l'arrivée, sur 15 assiettes, on ne doit pas savoir qui a réalisé la pièce. Voilà, on est dans un espèce d'anonymat. On se met à la place, en fait, de celui qui élabore sans mettre de création.
Oui, c'est plus un métier de technicien.
Tout à fait.
Alors justement, ça peut déboucher sur quel métier? Vous parliez tout à l'heure de céramiste, artisan, de décorateur sur céramique.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, on a soit des élèves qui se mettent en tant qu'auto-entrepreneur. Actuellement, c'est le statut qui marche pas mal. Certains petits ateliers recrutent. Et puis, après, nos élèves, soit ont plusieurs casquettes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément à plein temps dans la céramique, et à côté, peuvent avoir des activités plutôt liées au commerce, ou liées, voilà. On va dire qu'il se passe bien 4-5 ans avant de vraiment pouvoir se mettre à son compte dans la céramique.
Oui, en tant qu'artisan, ou restaurateur, ou décorateur.
Un restaurateur, c'est un métier différent, hein. Voilà, c'est encore une autre formation, la restauration.
Vous ne formez pas des restaurateurs sur porcelaine, justement?
Non, là, c'est vraiment une formation à part. Ils peuvent passer, effectivement, par le CAP décoration, mais il y a de longues études ensuite.
D'accord. Donc, vous êtes lié, hein, on en parlait tout à l'heure, à la manufacture de Sèvres. Benoît, vous avez passé un an... vous avez eu la chance d'être en direct hein, avec les artisans. Comment on les appelle, tous ceux qui les 120, parce qu'il y a quand même 120 personnes?
Alors, il y a un terme générique qui est les agents de la manufacture de Sèvres.
Oui.
Ce sont des fonctionnaires qui sont recrutés sur concours.
Ah, oui.
Et une fois qu'ils sont entrés dans la manufacture, généralement... Alors, j'ai croisé des gens qui avaient 47 ans de maison. Ils sont en fin de carrière, mais c'était assez exceptionnel de pouvoir discuter avec eux parce que ils ont connu la manufacture où ils étaient avec des grandes blouses blanches et où il y avait un protocole très très fort. Et puis ils ont croisé des gens assez extraordinaires comme Ettore Sotsas ou encore ça y est, j'ai oublié le nom, le grand vase noir avec un trou et il est doré à l'intérieur. Fait que du noir. Soulage, voilà. André Soulage. André, c'est André. Oui, c'est André Soulage. Et ce qui est amusant, c'est qu'il parle de tous ces gens par leur prénom. Et même Giuseppe Pennone. Et c'est à chaque fois, il en parle avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc, vous avez une personne comme ça qui a un énorme patrimoine. Et vous avez une personne intermédiaire, 30-40 ans, qui est là depuis 10-15 ans. Et puis vous avez les stagiaires ou les intermittents, enfin bref, des gens qui sont en train d'apprendre. Et tout ça se côtoie et se mélange. Et c'est ce qui pour moi fait la force de Sèvres, que je connaissais très peu au début, avant d'y rentrer. C'est ils font des objets incroyables, mais surtout ils ont un savoir et un savoir-faire et une capacité au dialogue et à échanger entre eux qui est fascinante. tout est toujours posé, il y a des avis qui sont contradictoires mais qui sont réfléchis, et il y a toujours ce souci de trouver la meilleure solution. Et vous avez même parfois des objets qui sont ressortis du magot. Donc le magot, c'est là, c'est le trésor de Sèvres. Vous avez tous les modèles en plâtre et tous les moules en plâtre. Et parfois, ils ressortent des modèles en se disant « Ah, celui-là, ça serait bien de le refaire. » Et puis, ben, des questions se posent. Comment on a fait il y a 150 ans ? Et puis, ben, comme j'y étais pendant un an, j'ai vu des problèmes se résoudre. C'est-à-dire que il me posait la question, en tout cas lors d'une conversation j'entendais la question se poser parce que j'étais toujours discret, et puis bah, au bout d'un moment il disait ça y est, on a retrouvé, on a fait plein d'essais, on arrive à reposer par exemple une anse sur un vase énorme. Alors ils savent les anses sur les petits modèles, les tasses, tout ça ils savent faire, mais pour ce qui est des grands vases, la question se posait, et donc ils ont fait plusieurs tests pour arriver à retrouver ce geste qui leur permettait de redonner vie à cette pièce. Et quand ils redonnent vie comme ça à des pièces, ce que j'ai trouvé de magique, c'est de voir comment des gens qui se portaient volontaires de plusieurs ateliers différents discutaient, trouvaient des solutions, testaient, et puis même parfois des tout jeunes qui étaient encore en formation à la manufacture de Sèvres, dans l'école de la manufacture, qui participent à tout ça, et avec le même ton et le même droit à la parole que l'aîné.
On rappelle qu'il y a 1000 pièces qui sont créées environ chaque année à la manufacture de Sèvres.
Oui.
Il y a, alors si on parle du musée, il y en a à peu près 50 000.
Oui.
Voilà. Ouais. Et donc, vous, Benoît, vous avez eu la chance de vivre pendant un an dans les ateliers avec les agents, comme vous disiez tout à l'heure. Et cela donne des croquis, des dessins que vous avez mûrement créés, réalisés avec eux dans un discours. Hein, vous en parliez tout à l'heure. C'est tellement réconfortant de voir qu'il y a encore ça aujourd'hui en ces temps mouvementés, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on peut voir ces croquis à partir de mercredi. Vous pouvez nous rappeler l'adresse, les horaires ?
Alors, l'exposition se tient du 19 mai au 26 juin, avec une inauguration le 20 mai. Et après, donc, la galerie de l'initiative, qui est un lieu tout récent, donc c'est la deuxième exposition qui aura lieu là-bas, pour le moment, on se visite sur rendez-vous. Donc, il suffit d'appeler au lycée de l'initiative pour prendre rendez-vous, et après, on se débrouillera pour vous ouvrir et vous faire visiter. Donc, le lycée de l'initiative et la galerie de l'initiative se trouvent au 24 rue Bourret, dans le 19e arrondissement à Paris. Et vous trouverez toutes les informations sur le site de l'école, lycée d'initiative Paris.
Très bien. Et donc mercredi, nos auditeurs peuvent venir mercredi à partir
mercredi
de...
Mercredi à 18h, de 18h à 20h.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. Il y aura le monde.
Très bien. Donc au lycée, l'initiative exposition de céramique par les enseignants et les élèves en deux parties, le pied dans le plat et croquer Sèvres. Merci beaucoup Benoît Morisseau, merci. Christelle Barberena, merci.
Merci.
Vous êtes bien sûr IDFM Radio, toute la culture que j'aime. L'émission touche à sa fin. Vendredi prochain, le 22, vous retrouverez Marie-Laure et ses nombreux invités. Quant à moi, je vous retrouve vendredi 29 mai. D'ici là, lisez bien, allez au théâtre, allez au cinéma. Et je vous retrouve le 29 mai. Merci.